Si Chris Roberts a pu réussir ce coup, Mohamed Kairoul, depuis son siège 29A, aurait-il pu le faire également? Faisait-il partie d'un commando chargé de détourner l'appareil? La justice française enquête sur Mohamed Kairoul. Mais le rapport final de la Malaisie conclut qu'aucun des passagers ne serait responsable du détournement. Alors, qui aurait détourné le MH370? Les pilotes?
The Malaysian authorities have refocused their investigation into the crew.
Les pilotes et copilotes, on en a beaucoup parlé. Il est évident que très longtemps, les enquêteurs ont voulu charger le pilote.
On l'a confirmé de l'intérieur, disons, que quand il y a un crash d'avion, on essaye tout de suite de trouver le plus de défauts possible aux pilotes et aux copilotes.
Les pilotes ne pouvant évidemment pas se défendre, ils peuvent faire office de coupable idéal pour la compagnie aérienne et le constructeur de l'avion. Leur culpabilité mettant un point final à l'enquête.
Le pilote, c'est le nerf de la guerre dans un avion, évidemment. Donc, moi, je me suis tout de suite dit qu'il fallait, avoir une idée la plus claire possible sur cette personnalité.
Étudions donc le profil des pilotes. Le copilote, d'abord. Farid Abdoulhamid a 27 ans. Il devait se marier prochainement avec une jeune femme, elle aussi pilote. Il a une vie privée heureuse, rien à voir avec le profil d'un terroriste ou d'un homme qui veut se suicider. Examinons maintenant le profil du commandant de bord. Zahari Ahmad Shah a 53 ans. Il est marié et père de deux enfants. C'est un pilote expérimenté. Il est même devenu instructeur pour la Malaysia Airlines. Un passionné qui possède chez lui un simulateur de vol. Sa vie privée est passée au crible, à la recherche de la moindre faille psychologique. La presse va jusqu'à mettre en cause les relations politiques du pilote. Le commandant de bord est en effet un proche du chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, qui va prendre publiquement sa défense.
I know him as a person very passionate about justice, and I think it is grossly unfair.
Les différentes enquêtes menées sur le pilote n'aboutissent à rien, si ce n'est à semer la confusion.
C'était un type exceptionnel, professionnellement, très fort mentalement, et comme m'a dit un de ses amis, l'homme que vous voudriez aux commandes si une catastrophe aérienne devait avoir lieu.
Pourtant, les enquêteurs vont vouloir en savoir plus. Les autorités vont donc perquisitionner le domicile du pilote et saisir son simulateur de vol.
Ce que nous savons pour le moment sur ce simulateur de vol, c'est que des données ont été effacées le 3 février dernier.
Ces données auraient-elles pu servir à préparer un détournement à des fins politiques? Quoi qu'il en soit, même si ce sont les Malaisiens qui ont effectué la saisie, c'est le FBI qui repart avec les données du simulateur.
Pourquoi le FBI? Je sais pas. Bon, pourquoi ils sont sur place si rapidement? Pourquoi ils récupèrent le simulateur de vol du pilote? Et c'est eux qui l'analysent.
Ce qu'on sait, mais sans l'avoir jamais compris, c'est pourquoi est-ce qu'alors même que cet avion n'est pas officiellement disparu, le FBI perquisitionne le domicile des deux pilotes.
Effectivement, cette perquisition a eu lieu 24 heures après la disparition de l'appareil. À noter la rapidité inhabituelle de la justice américaine pour mettre en place cette procédure dans un pays étranger.
Donc il y a une procédure judiciaire, donc il y a une enquête. Et c'est pas seulement du renseignement. Il y a nécessairement un caractère officiel qui a été donné à cette enquête. Mais en réalité, on n'en a pas trace, nous, dans notre dossier.
Sans tomber dans le complotisme, comment expliquer que le FBI s'immisce ainsi dans une enquête concernant la Malaisie?
Qu'est-ce que le FBI a caché? J'en sais rien. Moi, je suis pas dans la justice-fiction. Hein. Ce que je constate juste, c'est que jamais on nous a expliqué cette intervention du FBI.
Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là.
5 ans après les faits, malgré les demandes réitérées de la justice française, le FBI refuse toujours de collaborer. Que se cache-t-il derrière ce silence? À ce jour, c'est encore une question sans réponse. Compte continuons à analyser le rapport officiel. Dans un avion, en dehors des passagers et de leurs bagages, on transporte également dans les soutes des marchandises de toutes sortes. C'est le fret, que l'on appelle aussi le cargo. Qu'en est-il donc du fret embarqué à bord du MH370 ? Selon les enquêteurs, rien de particulier à signaler. Et pourtant, à y regarder de plus près, ce n'est pas si simple.
Il y a à peu près 10 tonnes de cargo dans cet avion. Les soutes ne sont pas pleines, mais presque.
Il y avait notamment 2,4 tonnes de chargement pour le fabricant d'électronique Motorola.
We carry some lithium-ion small batteries.
C'est la dangerosité des batteries au lithium qui pourrait poser problème. La question a été posée à la Malaysia Airlines.
It's not dangerous good to say, but in terms of they're not declared as dangerous good under ICAO.
Pas dangereuse. Il a été pourtant prouvé qu'en cas de choc violent, ces batteries peuvent exploser et prendre feu en quelques secondes. Plusieurs accidents ont été causés par ce type de problème. Le plus spectaculaire a eu lieu au sol sur un appareil de la compagnie DHL. Imaginons l'ampleur de la catastrophe si ces batteries avaient pris feu pendant le vol du MH370. Cela pourrait-il être la raison de la disparition de l'avion ? À côté de ce problème de sécurité, c'est la description même du chargement qui est un peu étrange.
Pour plusieurs tonnes de matériel électronique, la description est très légère. Parce que si on compare ça à d'autres éléments du cargo, par exemple des livres d'enfants, alors là, les livres d'enfants, on a le titre de chaque ouvrage, le nombre de pages et le prix à l'unité.
Malgré ces éléments troublants, selon le rapport officiel, le fret n'est pas en cause.
Airlines do this all the time. It's not just Malaysia Airlines.
Pour l'enquête officielle, a priori, ce ne sont donc ni les passagers, ni les pilotes, ni le fret qui sont en cause dans la disparition de l'appareil. À noter que le rapport a été rédigé à partir de l'enquête menée par la Malaysia Airlines, cette compagnie appartenant en totalité à l'État malaisien. On peut s'interroger sur son objectivité. Reprenons. Avant le décollage de l'avion, rien à signaler. Il est minuit 42 quand le MH370 décolle de la piste de Kuala Lumpur. Apparemment, aucun problème si l'on se fie aux enregistrements des conversations des pilotes avec la tour, puis avec le centre de contrôle en route qui gère le voyage. Le vol se déroule normalement pendant 40 minutes, jusqu'à ce que l'appareil ait atteint son altitude de croisière à 10 000 mètres. À 1h19, le dernier échange entre l'avion et le sol laisse entendre le fameux... Selon le rapport officiel, il est 1h22 quand les différents systèmes de communication de l'appareil s'interrompent brusquement. Même le SATCOM, qui permet la communication par satellite, s'éteint. À ce moment-là, le MH370 devient totalement muet. Seuls des radars pourraient le détecter. Cette coupure des communications se produit à un moment très précis qui ne semble pas être choisi au hasard entre la zone des contrôleurs malaisiens et celle des Vietnamiens.
Certains le mettent sur le dos de la coïncidence et les autres pensent que c'est tout sauf anodin, effectivement.
Jean-Paul Troadec, ancien responsable du bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile française, connaît bien ce genre de situation. Il a dirigé des dizaines d'enquêtes, notamment celles sur le crash du Concorde et du Rio Paris.
Le meilleur moment pour couper une communication, c'est au moment du transfert entre deux centres de contrôle.
Ainsi, le MH370 quitte bien la zone malaisienne, mais il n'entrera jamais en contact avec les Vietnamiens. Et il faudra 20 longues minutes pour que les contrôleurs vietnamiens s'inquiètent et demandent à leurs collègues malaisiens des nouvelles de l'avion. Mais pour Jean-Marc Garraud, spécialiste du contrôle aérien, il y aurait une explication.
C'est le contrôleur de Kuala Lumpur qui dit au pilote, appelez mon collègue de vietnamien, il va vous s'occuper de vous, etc. Et le contrôleur de Kuala Lumpur, une fois qu'il a dit ça, il ôte cet avion de sa mémoire opérationnelle. Il va s'occuper d'autres choses, et il a d'autres avions. Donc cet avion n'existe plus. Le contrôleur vietnamien, lui, c'est le symétrique, il sait qu'il va avoir un avion, mais sa mémoire opérationnelle ne sera déclenchée que quand le pilote va l'appeler. Alors il s'est passé 20 minutes, on peut trouver que c'est extravagant, mais il y a des anecdotes que ça a duré beaucoup plus longtemps.
Donc si le but était de détourner l'appareil en toute discrétion, couper les systèmes de communication à cet endroit était une idée judicieuse. C'est d'ailleurs la conclusion du rapport officiel. Mais cette interruption des systèmes de communication pourrait avoir une autre cause qu'un détournement. Un problème dans la soute électronique, un incendie, en tout cas, un événement soudain et très brutal. Un témoignage vient accréditer cette hypothèse. Mike McKay, un Néo-Zélandais qui travaille sur une plateforme pétrolière en mer de Chine, au large du Vietnam, déclare avoir vu dans la nuit du 8 mars une boule de feu à l'horizon.
C'est un ingénieur qui travaille sur les plateformes pétrolières. Je le trouve incroyablement crédible. Il n'a aucune raison de donner, de témoigner comme il le fait.
Dès l'annonce de la disparition de l'avion, il tente de prévenir les autorités malaisiennes. Son témoignage est particulièrement détaillé. Il dit précisément qu'il a vu une énorme flamme qui a duré 10 à 15 secondes. Il estime même la distance à 50, voire 70 km au sud de sa position. Sans réponse des autorités, il envoie un mail à son employeur.
Je crois avoir vu l'avion de la Malaysia Airlines tomber. Les heures concordent. J'ai contacté les autorités malaisiennes et vietnamiennes il y a plusieurs jours, mais je ne sais pas si le message a été reçu.
Disons qu'il est tellement sûr que ce qu'il a vu est exceptionnel, qu'il insiste beaucoup pour le faire savoir. Et ce qui se passe à ce moment-là pour lui, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne son témoignage au sérieux en disant « Ah bon, bah merci beaucoup, de toute façon, ça tombe bien, on cherche l'avion, ce que vous nous dites est extrêmement bizarre, on n'a aucune raison de douter de votre parole », il est immédiatement expulsé.
Expulsion. Disons plutôt que sa société a mis fin à son contrat. La journaliste Florence de Changy a remonté la piste de Mike McKay. Elle a rencontré quelqu'un qui dit l'avoir croisé au moment où il quittait le Vietnam.
Il était dans un état de stress totalement exceptionnel, d'après la personne qui l'a vu, et il n'est plus joignable.
De notre côté, nous avons également tenté de joindre Mike McKay, sans résultat. Alors, que fait-on d'un tel témoignage ?
Je pense que c'est des témoignages qu'il faut garder. Je pense que quelqu'un qui nous dit « j'ai vu une boule de feu en mer des Chines », ça reste plausible pour moi.
Un autre élément vient renforcer la thèse de l'accident. Au moment même de la disparition du MH370, un appel de détresse aurait été entendu par des militaires américains basés en Thaïlande et relayé par le China News. Cet élément viendrait corroborer l'existence de la boule de feu vue par Mike McKay en mer de Chine. Quatre heures après la disparition de l'appareil, les autorités malaisiennes lancent enfin des recherches en mer de Chine, dans la zone du dernier contact avec le MH370.
Et ça s'est fait grâce à la coopération de tous les navires présents dans la zone.
À partir de là, la communication des autorités malaisiennes va devenir extrêmement confuse. Toutes les informations seront communiquées, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses.
Je peux vous confirmer qu'il y a de très longues nappes de pétrole, mais pas de débris.
Les déclarations se contredisent et sèment la confusion.